Salut, bienvenue sur ce nouvel épisode où j'accueille Oussama qui va nous parler des Bonjour. CDP, les CDP étant des Customer Data Platform. C'est un épisode dans lequel on va un peu démystifier ce monde-là, te montrer que probablement pour ton site e-commerce, ça peut être un enjeu majeur de mieux comprendre ta donnée, de mieux comprendre tes clients, d'autant plus si tu as beaucoup de points de contact et si tu as beaucoup de clients. Donc je te souhaite une très bonne écoute de cet épisode. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, à poser un like aussi sur cette vidéo ou si tu regardes ça sur Spotify, à laisser un commentaire directement sur Spotify ou Apple Podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Salut. C'est parti pour un nouveau podcast. Dans ce podcast, j'accueille Oussama de Dinmo. Bienvenue sur le podcast.
Merci pour l'invitation.
Bah avec grand plaisir. L'objectif du jour, c'est de pouvoir parler des CDP. Alors, tu vas nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Juste pour la petite histoire et la raison pour laquelle on discute aujourd'hui, c'est que j'ai lu un article extrêmement intéressant il y a quelques semaines sur les CDP. Je me suis dit, waouh, ok, c'est hyper intéressant. J'ai besoin de trouver un expert qui va m'expliquer concrètement comment ça marche, comment utiliser ça pour son site e-commerce. À tous nos auditeurs, vous allez voir que c'est un sujet qui peut être vraiment central dans la personnalisation, dans la gestion de vos données clients dans le futur. C'est monstrueux. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour ça. Avant de commencer sur le sujet dur de la CDP, je te propose de te présenter, de nous expliquer un peu qui tu es, ton parcours et comprendre un peu ce que tu fais aujourd'hui.
Parfait, merci. Du coup, Sama, je suis CEO de Dinmo, une plateforme data. Donc, on essaie de revisiter le concept de la CDP avec une solution qui est simple à implémenter et surtout accessible à tout le monde, parce qu'aujourd'hui, le sujet de la CDP, c'est devient un sujet qui concerne tout le monde, pas uniquement des grandes entreprises qui font plusieurs centaines de milliers, voire millions de clients. J'ai passé 10 ans entre data, conseil des clients, comment ils peuvent exploiter leurs données clients pour améliorer leur métrique business. Et voilà ce qui m'a amené à la fin de créer un outil qui permet à un maximum de clients, un maximum d'entreprises de profiter de leurs données clients pour améliorer leur métrique business, de l'acquisition à la conversion.
Ok, super clair. Et je te propose qu'on rallume la lumière qui s'est éteinte entre temps. si tu veux aller appuyer sur le bouton. On est en même temps en vidéo. Du coup, on va faire un petit appui sur la lumière. On est dans un endroit où on a un système automatique de lumière. C'est un enfer. Ça risque de couper plusieurs fois dans le podcast. Donc, pour ceux qui regardent, vous serez certainement surpris.
Désolé, le capteur dans la salle ne marche pas super bien.
Bon, c'est pas très grave. C'est quoi qui t'a amené justement où tu es aujourd'hui? C'est quoi ton parcours? Tu as fait quoi avant de créer Dinmo?
Ouais, alors moi je viens d'un parcours ingénieur. J'ai commencé dans le conseil en stratégie dans le temps digital. C'est en 2014-2015. À ce moment-là, on commence à voir un peu des e-commerçants, des entreprises qui vivent sur l'e-commerce, la digitalisation des parcours clients. Donc j'ai commencé dans ce cabinet de conseil avec un focus particulier sur comment exploiter les données pour aider les entreprises à mieux performer. Donc à ce moment-là, j'étais plus en fait sur des problématiques de valorisation de la donnée grâce aux algorithmes, au machine learning. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle dans le temps, il n'y avait pas de ChatGPT, mais bon, il y avait quand même quelques algorithmes qui permettaient par exemple de me prédire le churn d'un client, prédire la lifetime value, la next best offer pour un e-commerçant. Donc c'était intéressant. Donc j'ai fait 4 ans dans ce cabinet de conseil. Avant de partir dans une start-up qui est Ornicar. Alors pourquoi je suis parti? Parce que c'était sympa tout ce que je faisais en algorithmique, mais ça restait au stade du POC, c'est-à-dire preuve de concept, parce que c'était très difficile de le mettre vraiment en application et d'en faire profiter les entreprises pour qu'ils les mettent dans leur process, par exemple avoir ces informations-là dans un CRM pour personnaliser les campagnes marketing, etc. Donc je me suis dit, je vais partir dans une entreprise tech pour voir comment on peut vraiment exploiter ça dans les process de l'entreprise. Et c'est là que j'ai rejoint Ornicar en tant que premier data guy. J'avais à tout faire. Donc à ce moment-là, on était une quinzaine, vingtaine. C'était en 2018, donc j'ai travaillé dans l'équipe tech. Ensuite, je suis parti dans le codir d'Ornicar. Et en gros, ce que je faisais, c'était de construire une plateforme data, une CDP, ce qu'on appelait CDP modulaire aujourd'hui, c'est-à-dire en utilisant plusieurs briques, en la construisant in-house. Donc on n'a pas acheté, On a centralisé les données clients et ensuite on a construit des usages à partir de ces données. Voilà, donc je l'ai fait avec des approches un peu modernes en utilisant des outils cloud. Et c'est au bout de 2 ans, au moment du scale d'Ornicar, où j'avais une opportunité de rejoindre un cabinet de conseil très technique pour monter un pôle data. Et justement pour essayer de faire tout ce que j'ai fait chez Ornicar dans un contexte très technique, très tech, pour des entreprises un peu brick and mortar, des grands e-commerçants, les aider à profiter de ces technologies, profiter des technologies type CDP. Et là, j'ai passé 2 ans avant de repérer l'opportunité de Dynmo et de créer Dynmo pour avoir un SaaS qui permet, voilà, comme je le disais tout à l'heure, à un maximum d'entreprises de profiter des fonctionnalités de ces plateformes de gestion de données clients.
Ok, très clair. C'est un parcours quand même hyper complet. En fait, tu es dans la data depuis...
Depuis
hyper longtemps, voire depuis toujours dans ta carrière pro. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai la sensation que ces derniers mois, la notion de data, elle est de plus en plus importante en e-commerce. Ouais. C'est devenu un enjeu majeur. Et en fait, j'ai un peu l'impression même que la data, tout le monde est en mode, on collecte un max de data, mais personne ne l'utilise réellement. Je pense que c'est un enjeu. Toi, tu vois aussi un peu ce truc-là, de genre beaucoup de gens sont en mode, on collecte, mais personne ne l'utilise. Quoi.
Ouais, en fait, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, SaaS, qui vendent des promesses autour de l'exploitation de la donnée, ce qui fait qu'on a un marché qui est vraiment blindé d'outils, ce qui rend en fait un peu les entreprises un peu sceptiques. Donc ils vont se concentrer un peu sur la collecte de données, je collecte les données, après ils se retournent, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et ils sont un peu perdus, parce que chaque outil va vendre une certaine promesse, il va raconter une certaine histoire, et donc ils restent un peu au milieu. Donc c'est vrai, ça c'est un constat que j'ai pu voir. Mais si on essaie de simplifier un peu ça, moi ce que je conseille aussi, quand je faisais du conseil, ce que je disais tout le temps à mes clients, c'est qu'il faut partir de ce que tu as envie de faire et ensuite revenir en arrière pour dire j'ai besoin de quelles données pour répondre à mon enjeu business et pas l'inverse. Genre, je vais tout collecter, je vais mettre des trackers un peu partout sur mon site, je vais le ralentir, etc. Et ensuite, je collecte tout ça, qu'est-ce que j'en fais ? Je sais pas.
C'est un enjeu hyper important. Depuis tout à l'heure, on parle de CDP, on n'a pas vraiment défini ce que c'était et je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui sont en mode de quoi ils vont me parler dans ce podcast. Est-ce que tu pourrais définir pour nous ce qu'est une CDP, à quoi ça sert, enfin, comprendre un peu, tu vois, genre ce que c'est déjà.
Ouais. Alors une CDP, en fait, c'est un... Le concept CDP, en fait, ça existe depuis toujours. C'est juste que le mot marketing, sales de CDP, en fait, il a eu un essor pendant il y a 4-5 ans. Alors, on a commencé vraiment à parler de Customer Data Platform, mais le mot CDP, l'acronyme CDP, est devenu connu chez les entreprises. Mais l'enjeu derrière la CDP, c'est d'être capable de maîtriser ses données clients. C'est d'avoir une vision 360 sur ses clients, quel que soit leur parcours. Leur parcours, c'est-à-dire offline, online, physique, les contacts avec le support ou leur interaction avec les emails que tu leur envoies. Donc l'enjeu premier, c'est de pouvoir retracer tout ce qu'on appelle le customer journey, donc le parcours client, et d'avoir la visibilité sur ce parcours client. Alors, tu vas me poser la question, on a ça, on revient à la question de, on a collecté toutes les données, on a cette vision-là, mais pour en faire quoi ? Et c'est là où on arrive en fait sur les deux fonctionnalités de base, une fois qu'on a collecté toutes ces données, qu'on a réconciliées pour avoir une vision 360 des clients. Les exploitations un peu essentielles qu'on retrouve dans toutes les solutions CDP, c'est la capacité à segmenter, c'est-à-dire regrouper des clients selon certains critères, certaines caractéristiques qu'ils partagent, pour ensuite les activer. Par activation, je veux dire la capacité à communiquer ces profils clients dans d'autres plateformes qui vont permettre à l'entreprise d'acquérir des nouveaux clients ou de développer la valeur existante des clients. Donc l'enjeu, il est complètement business. On peut rentrer après dans les détails des différents cas d'usage, mais s'il y a quelque chose à retenir, c'est une CDP, c'est 3 fonctionnalités, capacité à centraliser, collecter et centraliser les données, ensuite la segmenter, ensuite l'activer, c'est-à-dire la communiquer dans les plateformes type CRM, emailing, personal site, etc.
Écoute, je pense que c'est assez clair. Je pense qu'il y a quand même un point qui serait intéressant de définir, parce qu'on souvent on a tendance à dire collecter la donnée de nos clients. Est-ce que tu aurais des exemples un peu des c'est quoi la donnée de nos clients? Tu sais, c'est quoi les concrètement, c'est quoi les types de données que toi tu trouves intéressant à particulièrement collecter quoi?
Bah, s'il faut commencer par une donnée, il faut déjà avoir le parcours d'achat de tes clients. Il faut savoir que n'importe quel client qui a acheté qui est rentré en relation avec l'entreprise, qu'est-ce qu'il a acheté comme produit, de quelle catégorie, à quel moment? Parce que ça, c'est la donnée de base. Donc, la première segmentation que tu peux faire, c'est de dire bah, c'est mes clients les plus fidèles qui achètent régulièrement, mes clients qui génèrent le plus de valeur, mes clients qui ont acheté une seule fois avec de la réduction et qui ne sont jamais revenus. Donc, ça, c'est vraiment le premier set de données, limite obligatoire à avoir. Si on a un peu un trou sur le parcours d'achat, c'est qu'il y a un problème. Après, bien sûr, avec maintenant les parcours digitaux, on peut enrichir toujours avec la donnée analytique, donc tout le parcours web. Tu vas rebondir, me dire, bah, OK, le parcours web, est-ce que c'est un parcours logué? Comment on arrive à réconcilier? On peut revenir après. Mais voilà, et si on arrive à enrichir aussi par des événements de tout ce que le client a fait sur le site de l'entreprise, c'est encore mieux parce que ça nous donne en fait des données comportementales. Si on peut enrichir aussi avec des données de type est-ce qu'il ouvre ses mails, est-ce qu'il lit ses mails ou pas, est-ce qu'il appelle au téléphone le support ou est-ce qu'il échange par mail. Donc en fait, c'est des données qui vont nous permettre de mieux comprendre nos clients pour ensuite personnaliser le traitement de ces clients-là et par exemple dire ce client-là, j'ai repéré que c'est un client fidèle qui aime être contacté par téléphone, donc en fait je vais préférer ce canal-là de contact et ne pas lui envoyer des mails ou des SMS parce qu'il n'aime pas ça. Voilà, c'est un type d'usage.
Ouais, ce qui est assez intéressant dans ça, c'est qu'en gros tu as un peu cette notion où aujourd'hui l'information elle est vachement silotée. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des e-commerçants, ils vont avoir de la donnée un petit peu dans Google Analytics, dans évidemment leur CRM, que ce soit Shopify, Presta, Shop, WooCommerce ou autre, dans leurs outils d'email. Mais il n'y a pas forcément un single point of truth, ouais. Tu vois, qui est au milieu, donc vraiment un point de vérité de tes clients. Tu as de la donnée un peu éclatée un peu partout et tu ne sais pas vraiment tout ce qui se passe, quoi. Je pense que c'est un peu ça aussi l'enjeu d'une CDP.
Exactement, c'est même l'enjeu premier. C'est l'enjeu premier, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en moyenne, chez les entreprises, il y a une dizaine de touches clients. Quand je parle de touches clients, c'est-à-dire qu'il va aller sur le site, donc la donnée, elle est dans Google Analytics. Ensuite, il va acheter, la donnée, elle est dans plusieurs bases. Il a acheté en magasin, donc dans les caisses. Il a acheté sur le site web, dans un Shopify, dans un Magento, etc. Il a contacté le support par le CRM, enfin, sur la donnée, elle est dans Intercom. On lui a envoyé un mail, la donnée, elle est sur le CRM, etc. Donc, il y a énormément de touches, ce qui fait que c'est difficile. La donnée, elle va vivre en fait, dans plusieurs outils. Et elle est complètement silotée. Donc, difficile de savoir les réconcilier. Donc, le premier enjeu, c'est justement de désiloter ces données pour construire cette seule source de vérité. Et ensuite, une fois qu'elle est collectée, ça va permettre à tout le monde de parler le même langage. Une des problématiques que j'ai vues, c'est que avec la multiplication des outils SaaS qui sont utilisés par différents décideurs dans l'entreprise. Je suis directeur commercial, je vais essayer de construire, de mettre toutes les données dans mon Salesforce. De l'autre côté, il y a le directeur marketing qui va essayer de mettre ces données dans son outil CRM. Et ça va faire qu'on va retrouver deux endroits dans lesquels il y a les données. Ils vont calculer, par exemple, la lifetime value d'un client d'une manière différente. Et donc, ils vont parler un langage totalement différent. Alors que s'ils avaient une CDP au milieu qui agit comme la seule source de vérité, donc toutes ces métriques-là, ils vont être enregistrées dans cette CDP et après cette CDP, elle va communiquer cette information au Salesforce du directeur commercial et au Selligent ou au l'outil CRM du directeur marketing et ça va leur permettre en fait, d'être alignés et de parler exactement le même langage et ne pas avoir de désalignement qui est dû au fait que la donnée est silotée.
Je trouve que c'est un sujet hyper important et moi dans l'article que je lisais dont je parlais au début de l'épisode il y a un sujet qui m'avait complètement bluffé, c'était l'aspect personnalisation du parcours d'achat même sur le site qui était capable d'être géré par une CDP. Je vais prendre un exemple pour nos auditeurs. Imaginez que vous êtes une marque de cosmétiques et que vous vendez plein de produits cosmétiques différents et que vous avez proposé sur votre proposez sur votre site une sorte de questionnaire de découvrir votre type de peau ou je sais pas trop quoi, tu vois, est-ce que vous avez des cheveux gras ou pas, et tu fais une sorte de questionnaire comme ça, tu récoltes ces informations et en fait tu te retrouves avec des informations qui ont vachement de valeur pour toi en tant qu'entreprise, parce que derrière tu vas dire ah mais attends, si cette cliente je vois que elle a plutôt la peau grasse, elle a plutôt les cheveux secs, bah en fait je vais peut-être pas lui proposer une crème tu vois pour la peau sèche et un shampoing pour la peau pour les cheveux gras, et du coup t'as cette notion de personnalisation qui était hyper impressionnante. Un autre exemple que j'avais vu qui était fou, c'était Nike qui faisait ça, en l'occurrence c'était un des exemples, désolé je parle un peu beaucoup mais j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet après, qui faisait que si t'étais logué sur le site de Nike avec ton compte et que tu tapais chaussures, et ben en fait, vu que Nike sait que tu es un homme de tel âge à tel âge, que tu fais du running, en fait, les premières chaussures qu'il va te montrer, ça va être des chaussures de running, tu vois. Et ça va pas être, je sais pas moi, la Air Force pour la mode, parce qu'il sait très bien que tu es un sportif et que tu viens acheter chez Nike, pas du lifestyle, mais du sportif. C'est quoi un peu ta vision du coup de la personnalisation et en quoi la CDP peut aider à ça? Est-ce que c'est fanfaronné un petit peu ou pas, tu vois, genre, c'est quoi un peu ta vision du truc?
Ouais, alors l'enjeu de personnalisation, c'est un enjeu extrêmement important parce que les parcours d'achat aujourd'hui, en tout cas le temps qu'un prospect ou un client va passer sur ton site, il est très réduit. On connaît une époque où je passe 10 secondes sur ton site, tu ne me montres pas le bon produit, je peux te churner. Donc on peut vraiment agir sur ce taux de transfo en montrant et le temps d'engagement donc qu'un prospect ou un client va passer sur ton site, en personnalisant l'expérience dès le début. Alors, il n'y a pas que la CDP qui va permettre de faire ça, hein, dans le sens où il y a énormément d'outils de perso en site. Hein, je prends Chameleon, Adobe Target, qui sont des outils historiquement qui ne sont pas alimentés par des CDP. Donc, ce n'est pas la CDP qui leur permet de personnaliser l'expérience. Mais je vais te montrer un peu la limite de ces outils, c'est qu'ils sont basés sur les données qu'il récolte sur une session. Donc, c'est la session en cours. C'est-à-dire, bah, en fait, il a regardé ce premier produit, il a rebondi directement, donc je vais lui proposer un autre produit jusqu'à ce que j'arrive à mieux le connaître. Sauf que, quand tu as une CDP, tu as un historique sur ces clients-là qui sont logués, bah, en fait, tu peux, dès la première proposition, être très pertinent. Parce que tu as déjà ces informations-là qui sont collectées, que tu as communiqué à cet outil de personnalisation de l'expérience en site pour, dès la première proposition, être pertinent. Après, bien sûr, tu peux continuer à personnaliser en utilisant les données de la session, mais la CDP, elle te permet réellement de faire ça. Hein. J'ai discuté dernièrement avec une personne qui travaille dans l'équipe data de Deezer, où ils ont énormément d'enjeux par rapport à ça. En gros, tu arrives sur Deezer, tu vas écouter un premier morceau, bah, qu'est-ce que tu vas réécouter après? Donc la personnalisation, elle est hyper importante pour garder les prospects et les nouveaux clients. Et ils ont besoin d'être réactifs par rapport à ça. Et comme les clients, ils peuvent vraiment avoir un historique d'écoute assez riche, donc l'enjeu de personnalisation, il est extrêmement important. Donc voilà. Donc la CDP, elle permet d'avoir cet historique sur le client pour personnaliser dès le début de la session et pas après certaines durées et un certain parcours chez le client, parce qu'aujourd'hui, les clients, leur attention, elle est limitée et en fait, si tu n'arrives pas à les engager, ils vont partir assez rapidement.
Est-ce que finalement, ce dont on vient de parler, est-ce que c'est vraiment facile et réel? Je veux dire, est-ce que tu peux vraiment mettre ça en place sur ton site si tu as un petit site qui fait, entre 500 et 1000 commandes par mois, ou est-ce que ça va plutôt être dédié à d'autres types de sites? Est-ce que entre la promesse et la réalité sur la personnalisation, comment tu vois les choses, toi?
Alors, quand on parle de personnalisation en site, déjà, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est un enjeu de parcours logué, de parcours aussi avec beaucoup de consommation.
Parcours logué, juste pour nos auditeurs, c'est le fait d'être connecté sur le site lorsque tu navigues sur le site. Donc, de ne pas... vraiment connecté avec ton compte. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que sur la vaste majorité des sites, les gens ne sont pas logués.
Exactement.
Donc, c'est un enjeu.
Exactement. Bah, en fait, ça, on peut en parler si tu veux après, mais l'enjeu de pousser les clients à être logués, c'est un enjeu extrêmement important. Parce qu'en poussant les clients à être logués, l'entreprise a plus d'opportunités à les faire convertir. Donc les laisser non logués, bon, peut-être tu vas les garder, ils vont acheter le produit plus rapidement, mais en fait, s'ils ne se loguent pas, tu ne vas pas personnaliser leur expérience, donc tu vas perdre sur tes chances de les convertir par la suite. Donc c'est clairement un enjeu. D'ailleurs, même sur des sites e-commerce, on voit de plus en plus les pop-up qui proposent en fait des réductions, etc., pour récupérer l'adresse mail et ensuite pousser le client à finir son parcours d'achat pour profiter de cette promotion. Et en fait, l'enjeu derrière, c'est d'identifier le client. Parce que du moment où on n'arrive pas à identifier le client, on ne va pas être pertinent dans les propositions et on va... En fait, c'est un funnel. Donc, il y a un moment pour convertir le prospect, il faut lui proposer le bon produit. Oui, c'est un enjeu, pas uniquement pour des entreprises type les Netflix ou les Deezer, Spotify, qui sont des contenus 100% en ligne et qui se consomment en ligne tout le temps. Donc, les parcours de nature sont logués, mais même pour un e-commerçant, c'est assez important parce que ça permet en fait d'améliorer l'expérience et d'être pertinent sur les propositions et donc, in fine, améliorer les taux de conversion des prospects en clients.
Mais sur la partie loguée, tu as quand même un enjeu qui est que certes, c'est intéressant pour toi de pousser ton visiteur à être logué, mais en même temps, tu sais que c'est potentiellement un point de friction que tu n'as pas envie de faire parce que ça risque d'abîmer ton taux de conversion. Est-ce que t'as des visions, toi, un peu sur ça et tu as des astuces, peut-être?
Ouais. Alors, ma vision de la chose, en fait, je sais qu'il y a énormément de sites qui font, par exemple, même l'achat non logué. Donc, en gros, j'achète directement. Pour moi, la vue aujourd'hui, les coûts d'acquisition extrêmement importants des premiers achats, c'est pas intéressant de proposer ces achats un peu non logués. C'est un avis tranché, mais pourquoi je le dis, c'est juste parce que comme les taux de conversion les coûts d'acquisition sont devenus extrêmement importants, difficile de rentabiliser le premier achat. Donc en fait, on va essayer de rentabiliser par les achats qui vont venir par la suite. Donc limite, si j'évite des clients qui sont intentionnistes, qui vont venir juste acheter un premier achat, c'est pas très grave et ça va me permettre d'avoir des clients qui vont être plus fidèles, qui vont générer plus de lifetime value. Donc en fait, quand je rapporte la valeur finale du client à son coût d'acquisition, c'est plus rentable. Mais après, c'est un avis très tranché, c'est un avis perso.
Ouais, en fait, sur ça, tu vois, moi je suis assez partagé parce que si tes coûts d'acquisition sont élevés, tu as envie de t'assurer que ton taux de conversion sur le site soit le plus élevé possible. Et quand on regarde les études des points de friction sur justement qu'est-ce qui empêche les gens de passer à l'achat, tu as une liste en fait de trucs. Oui. Et le premier truc, c'est le fait de se connecter pour faire un achat. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, moi, c'est un truc que je dis à mes clients qui ont un parcours où tu es obligé de te connecter pour pouvoir. Tu ne peux pas commander en mode invité, ce que je veux dire par là. C'est est-ce que quand tu vas chez Leclerc, que tu passes à la caisse, on te dit c'est quoi votre adresse mail, monsieur, c'est quoi votre mot de passe? La vérité, c'est que non, tu vois. Pourquoi tu le fais sur ton site? Et du coup, pour moi, c'est une grosse frustration parce que si tes coûts d'acquisition sont très élevés, tu as vraiment tout intérêt à limiter les points de friction. Par contre, peut-être par rapport à ce qu'on disait, c'est que est-ce que dans le parcours logué, tu considères uniquement la personne qui est connectée ou est-ce que tu considères qu'à partir du moment où une personne, par exemple, a répondu à une pop-up et que tu as son email, tu peux te dire cette session, elle est pseudo-loguée. Et du coup, elle est rattachée à cet email et donc tu n'es pas logué avec un mot de passe à proprement parler.
Ouais. Alors, et c'est exactement de ça que je parle. En fait, il ne faut pas faire acheter des clients qui ne consentent pas pour laisser leur adresse mail parce que derrière, ils ne sont pas clients. En fait, c'est un seul passage. Et la différence par rapport à Leclerc, c'est qu'en Leclerc, les clients n'ont pas besoin d'être le identifiés parce qu'ils vont revenir automatiquement parce que c'est Leclerc, c'est la marque Leclerc. Par rapport à un site e-commerçant, c'est un peu différent. Et en fait, l'enjeu, c'est vraiment d'identifier les clients pour essayer ensuite d'avoir une possibilité de les réengager avec la marque. Parce que s'ils vont acheter, ils ne vont pas du tout garder ta marque en tête. Et ils ne vont pas... interagir avec toi. Donc, on va rester uniquement avec des clients intentionnistes, avec majorité de la base client qui achète une seule fois. Et pour moi, ce n'est pas sustainable. Ça dépend des business, mais aujourd'hui, pour rentabiliser les investissements qu'on fait sur l'e-commerce et avec les coûts d'acquisition, il faut essayer d'améliorer, pas uniquement le coût d'acquisition par rapport au premier achat, donc le ROAS, mais aussi le ROI du client, c'est-à-dire améliorer le taux de repeat qui est un enjeu extrêmement important.
Ouais, c'est clair. Je te propose qu'on transitionne rapidement sur un autre sujet qui est que depuis tout à l'heure on donne vachement d'exemples de genre mm-hmm. Spotify, Deezer, Netflix, ouais. des Nike, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est quand même des énormes boîtes qui ont des enjeux qui sont très différents de la vaste majorité des e-commerçants. Et avant que je pose ma question, on va rallumer la lumière qui vient de s'éteindre à nouveau.
Yes, de retour.
Ouais, donc ce sont vraiment, tu vois, des énormes marques. Je pense que j'ai du coup pas mal, il y a pas mal d'auditeurs qui se disent non, c'est pas fait pour moi, tu vois, c'est pas intéressant. Mm-hmm. Et du coup, une des questions que j'ai envie de poser, c'est quoi, enfin, pour qui les CDP, qui sont les personnes qui doivent les utiliser. Ouais. Et c'est presque une double question, c'est en quoi finalement, ce dont on a parlé tout à l'heure, un outil comme Klaviyo ou mon CRM n'est pas presque plus ou moins capable de le faire aussi, tu vois.
Ouais. Prenons la première question. Donc, une CDP, c'est pour quelle entreprise ? Alors, ça en revient à la définition des CDP. Donc, la première fonctionnalité, c'est d'être capable d'avoir une vision unique des clients. Donc, en fait, la capacité à réconcilier les parcours qui sont silotés, donc online, offline, achat, les interactions avec le support, etc. Et donc, le besoin de la CDP, il est un peu corrélé à la multiplication des touches clients. Donc, les entreprises qui ont plusieurs touches clients, c'est en général des grandes entreprises, donc qui ont un réseau physique, qui ont plusieurs manières de communiquer avec les clients, et en général, c'est des enterprises, donc des très grandes entreprises. Mais ça, c'était historiquement, dans le sens où historiquement, le besoin, c'était vraiment de comprendre les clients, et ensuite, tout ce qui vient après, la personnalisation, etc., c'était des enjeux limite un peu nice to have. Sauf que aujourd'hui, l'enjeu est plutôt en fait sur les autres fonctionnalités dont on a parlé tout à l'heure, qui sont la capacité à segmenter et à activer la donnée, c'est-à-dire utiliser la donnée client, donc la donnée aussi qu'on appelle first party, c'est-à-dire générée par les systèmes de l'entreprise, dans des outils third party, donc des outils type Facebook, Google Ads, etc., pour des enjeux qui sont vitaux pour l'entreprise. Donc quand on parle d'améliorer son coût d'acquisition, baisser son coût d'acquisition client de 10, 15, 20% pour un e-commerçant dont les marges en fait sont très 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 faibles, ce n'est pas un enjeu mineur. Et aujourd'hui, il y a un élément de marché qui a rendu en fait les outils CDP nécessaires pour quasiment toutes les entreprises. Et cet enjeu-là, cet élément-là, c'est la disparition des cookies tiers. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, en fait, les cookies tiers, c'est des fameux fichiers qui sont déposés sur vos navigateurs quand vous naviguez sur un site web, qui permettent au site web de reconnaître votre parcours et ensuite envoyer cette information-là à un Facebook, à un Google pour lui dire que ce client-là qui a cliqué sur ta pub, il a fait ce parcours-là sur mon site. Sauf qu'aujourd'hui, cette manière de récupérer l'information elle est un peu remise en question par le marché. Il y a Apple avec iOS 14 qui commence à bloquer ce genre de tracking, donc ce genre de manière de récupérer les données sur des users qui sont non logués. Il y a des ad bloqueurs, et si on rajoute à ça les bannières, on peut accepter ou pas accepter d'être traqué. Donc il y a très peu de données qui sont collectées sur les clients qui arrivent non logués sur un site pour faire un parcours d'achat. Ce qui fait que si les plateformes d'acquisition, donc les publicitaires, Google Ads, Facebook Ads, etc., n'arrivent pas à connaître les clients qui cliquent sur la publicité, quels sont les clients qui vont réellement convertir sur votre site, ils vont distribuer de la pub un peu à l'aveugle. C'est-à-dire, tu as déjà acheté le produit, ils vont continuer à te proposer la publicité et le coût, il est répercuté sur l'annonceur. Et pour faire face à ça, ce que proposent ces plateformes, c'est de communiquer de la donnée client directement depuis le serveur et ne pas la collecter sur le site. Donc, bypasser les cookies tiers en envoyant des flux de données clients directement depuis le serveur. Sauf que pour pouvoir le faire, il faut avoir des outils qui permettent d'automatiser ces flux-là. Et en général, les plateformes qui permettent de le faire, c'est sa fameuse plateforme CDP. Et ce qui remet du coup l'enjeu de la CDP, enfin, ce qui rend l'enjeu de la CDP, de la collecte de la donnée, la capacité à activer de la donnée client, un enjeu un peu universel. Du moment où on acquiert des clients sur le digital, enfin sur Internet, bah, en fait, on a besoin d'un tel outil pour réduire ses coûts d'acquisition, sinon on va payer 20-25% plus cher l'acquisition d'un client.
Ok, donc en fait, si je résume ce que tu nous as dit, la CDP était historiquement un outil utilisé par des très grosses boîtes qui ont des centaines de milliers, voire de millions de clients. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux enjeux qui adressent en fait, où les CDP peuvent adresser des enjeux de plus petites boîtes. Est-ce que justement, quand on dit plus petite boîte, toi, tu te fixes un peu des chiffres, en nombre de clients, en nombre de commandes, ou est-ce que tu as des indicateurs qui te permettent de dire, tiens, bah, à partir de cette taille, c'est pertinent?
Ouais. Alors, oui. Historiquement, c'était des centaines de milliers, même des millions, pour que ce soit pertinent et qu'on ait un ROI. Aujourd'hui, la seule limitation, c'est d'être capable de segmenter. Parce que segmenter 200, 300 clients, en fait, on est sur. Statistiquement, c'est pas. Signifiant. Donc, en général, moi, ce que je dis à nos clients, c'est à partir de 10 000, donc tu es capable en fait, d'avoir des populations, donc des segments. Ah, ça, c'est mes meilleurs clients, ça, c'est mes clients qui ont acheté une seule fois, qui se comptent en milliers. Et pourquoi en fait cet enjeu d'avoir des segments en milliers? Parce que les plateformes externes, type Facebook, type Google, n'acceptent pas des audiences inférieures à 1 000 clients. Donc si, enfin c'est là où je mets un peu le curseur à 10 000, mais en vrai ça devient réellement intéressant et limite même important de s'équiper d'une solution type CDP à partir d'une base client, une base de lead, en tout cas une base travaillable, une base avec des adresses email à partir de 100 000.
Donc c'est quand même, alors oui, 10 000 clients ou 100 000 prospects de gens abonnés à des newsletters, adresses email, etc. Ok. Et on parlait tout à l'heure justement, la connexion est parfaite, je te posais la question un peu en même temps de en quoi mon CRM, je prends tu vois, un exemple bête, sur notre site, on utilise Klaviyo, et Klaviyo me permet déjà connecté à mon Shopify de faire une certaine segmentation, tu vois.
Ouais.
En quoi, tu vois, une CDP elle va me permettre d'aller plus loin qu'un Klaviyo? Ou est-ce que finalement Klaviyo c'est très bien jusqu'à un certain point, enfin, tu vois, c'est quoi un peu ta vision du truc?
Alors pour moi Klaviyo c'est ta CDP, c'est juste c'est ça la réponse en fait. Il s'appelle un CRM parce que la fonctionnalité de base c'est d'être capable en fait de communiquer et d'envoyer, de faire des campagnes en fait d'emailing, mais tu l'utilises comme une CDP parce que tu utilises les fonctionnalités d'activation, donc la capacité à envoyer les segments qu'historiquement tu contactes par email vers des plateformes externes pour faire d'autres traitements, pour améliorer ton acquisition avec des audiences customer match, etc. Donc la réponse, c'est que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils CRM qui sont utilisés comme des CDP. Et pourquoi? Parce qu'ils répondent déjà aux deux fonctionnalités dont on a parlé, deux des trois fonctionnalités dont on a parlé tout à l'heure, qui sont la capacité à donner à l'entreprise une vision 360 des clients. Toi, tes clients, ils sont sur Shopify, sur Google Analytics. Ces deux données, tu peux les mettre dans Klaviyo, déjà, tu en as besoin pour tes campagnes emailing. Et donc, ils ont rajouté quelques connecteurs pour Facebook, pour Google, donc pour les plateformes un peu connues. Et voilà, donc là, pour un setup comme le tien, c'est suffisant pour, comme CDP.
Et à partir de quel moment, tu vois, on devrait, nous, se préoccuper d'aller peut-être en utiliser une, sachant que je rappelle juste un peu le point où on en est aujourd'hui. En gros, on est un site e-commerce uniquement en ligne. On n'a pas de point de vente physique. Et on a, je vais dire des bêtises, on a peut-être une base de 10, 15 000 clients, tu vois.
Ouais. Alors, encore une fois, c'est... Ce n'est pas une question de taille de la base client, plus que qu'est-ce que tu as envie de faire de tes données clients. Par exemple, si tu veux uniquement faire alimenter des campagnes, enrichir des campagnes d'acquisition sur Google Ads, Facebook Ads avec des audiences clients, ça suffit. Quel que soit du moment où tu restes sur Shopify et Google Analytics, ça suffit largement parce que Klaviyo il a ces connecteurs-là. Par contre, si tu veux commencer à faire des usages un peu compliqués, typiquement, OK, bon, je vais faire un peu de SMS avec un outil type All My SMS, par exemple. Donc, je dois avoir, pouvoir communiquer ces segments que je crée sur Klaviyo dans cette plateforme-là. Je vais devoir personnaliser l'expérience en site de mes clients avec leur parcours d'achat, leur profil d'achat, etc. Et donc, je dois communiquer ce profil de client, de mes meilleurs clients ou des clients qui sont intéressés par un certain produit dans mon outil de perso en site, Adobe Target ou autre. Bah, là, tu te retrouveras limité parce que ce n'est pas le cœur du business de Klaviyo. Donc, Klaviyo, il fait un peu le 80-20. C'est-à-dire pas tout le monde a besoin de Facebook, Google Ads comme destination pour envoyer les données clients. Mais il ne va pas te développer un connecteur pour ton outil de perso en site ou ton outil de SMS parce que ce n'est pas une CDP. Ce n'est pas leur cœur de business.
Ouais, et quand on parlait tout à l'heure qu'on préparait un peu l'épisode, tu me disais aussi que finalement, en fait, la stack que nous on utilise dans nos sites, elle est quand même relativement bien, dans le sens où elle est assez quali, mais toi, tu as des clients en fait, dans lesquels tu as une vraie complexité dans la structure où en fait, rien déjà ne discute entre eux. En fait.
Oui, oui, totalement. Ça vient avec la taille de l'entreprise, c'est-à-dire une DMV, une marque complètement digitale qui opère sur un seul site partout dans le monde. En fait, toutes les données sont sur un même site, que ce soit un Magento, un Shopify ou un PrestaShop. La donnée, elle est dans un même outil. Donc, c'est très facile en fait, d'avoir une vision du client avec tous les parcours d'achat. Par contre, quand on est une entreprise du retail, un peu brick and mortar, brick ou privé, peu importe, une entreprise qui était historiquement dans des boutiques physiques avec des systèmes de caisse qui sont différents, avec dans chaque pays un système d'information différent, des sites web avec des technos différentes entre dans les différents pays. Donc là, l'enjeu de centraliser les données, de réconcilier une vision unique du client, c'est un énorme enjeu et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est là où, non, on ne peut pas utiliser ni Salesforce, ni Klaviyo, ni n'importe quel CRM pour pouvoir faire ça. Il faut des outils type CDP. Il faut la fonctionnalité de base qui est la collecte et la centralisation de la donnée client pour reconstruire un parcours unique. Elle est complexe, due au fait que la donnée elle se trouve dans plusieurs systèmes. Donc dans ce genre de cas et qui se présente dans les entreprises, dans les grandes entreprises qui viennent, enfin un peu brick and mortar, c'est clairement ils peuvent pas être sur Klaviyo. Ils doivent avoir un CDP qui a des connecteurs ou centraliser eux-mêmes la donnée dans des entrepôts de données, ce qu'on appelle les data warehouse, pour pouvoir ensuite la transformer en CDP.
Ok, ouais, effectivement. C'est des usages où quand tu vas commencer à rajouter des briques à ton aspect e-commerce, tu ouvres de la boutique physique, tu as un système de caisse qui n'est pas connecté à ton outil, e-commerce actuel. Mm-hmm. Dès que tu vas commencer à peut-être ouvrir de la marketplace ou ce genre de choses, tu vas te retrouver en fait dans une situation où ta donnée, elle commence à être déjà bien trop mélangée, quoi.
Exactement. Donc, si on résume, donc il y a l'enjeu de j'active ma donnée, j'ai besoin d'activer ma donnée sur plein de plateformes, donc un CRM ne peut pas me permettre de faire ça, ou j'ai la donnée qui est dispersée entre plusieurs outils, donc j'ai besoin d'avoir un outil robuste qui me permet de connecter ces différents outils et de réconcilier pour avoir une seule vision de mes clients.
Ok, il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde pour la fin de notre épisode, qui est autour de l'activation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui est de dire que finalement collecter beaucoup de données, c'est bien beau, d'avoir des segments bien carrés comme il faut, c'est bien beau aussi, mais finalement comment on fait pour vraiment activer? Et est-ce que toi avec ton expérience aujourd'hui tu pourrais nous partager peut-être des cas d'usage que tu as vu ou des exemples de comment activer sa donnée, comment utiliser justement sa CDP, peut-être des bonnes pratiques, je sais pas, que tu vois chez tes clients ou autre?
Oui, totalement. Donc, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parlé surtout de la personnalisation de l'expérience en site. Et c'est vrai que c'était historiquement le cas d'usage, entre guillemets, sexy qui est mis en avant pour donner envie. Parce que dire, t'arrives, j'améliore les taux de transfo. Enfin, le storytelling derrière, il est beau. Donc, en fait, on met toujours ça en valeur. Alors que dans la réalité, c'est pas le cas d'usage le plus utilisé des CDP. Et en gros, revenons déjà sur le terme activation. Donc, activation de données clients, c'est, la signification, c'est la capacité à envoyer, synchroniser les données d'un profil client avec une plateforme externe. Voilà. Avec un certain rythme, soit en temps réel, soit tous les jours, etc. Et pourquoi on a envie de synchroniser ces données-là ? C'est pour faire des cas d'usage sur tout le funnel client. Donc, ce n'est pas uniquement de la personnalisation, donc c'est la conversion, même sur la partie acquisition. Donc, commençons par l'acquisition déjà. Et c'est un des cas d'usage que je vois le plus pour l'activation, c'est d'être capable d'améliorer son acquisition dans un monde où il n'y a plus de cookies tiers. Et donc, les premiers cas d'usage, c'est autour de j'ai envie de réduire mon coût d'acquisition. Donc, c'est la première métrique. Et pour le faire aujourd'hui, on a des cas d'usage autour de type mon pixel ne fonctionne plus, donc je vais envoyer toutes mes données de conversion de serveur à serveur avec des technologies pour CAPI, je sais pas si Facebook CAPI, Facebook Conversion API, ou Google Enhanced Conversion, etc. Donc c'est des flux que les clients sont obligés aujourd'hui de mettre en place pour récupérer jusqu'à 10% de coût d'acquisition. Donc c'est le premier cas d'usage, un peu no-brainer. Quand j'ai des clients, je leur dis ça, tu le fais une seule fois et tu l'oublies. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il y a aussi tout autour des audiences. Donc ça, c'est mes meilleurs clients. Je dois communiquer cette information à mes plateformes d'acquisition Google Ads, Facebook Ads, pour leur donner des signaux sur c'est qui mes meilleurs clients et pour qu'ils me ramènent des clients qui leur ressemblent. Donc voilà, avec des technologies type Customer Match, Facebook Custom Audience, c'est parmi les cas d'usage qui aujourd'hui ont le plus de ROI assez immédiat et qui sont de plus en plus importants, comme on le disait, avec la disparition des cookies tiers.
Et ce truc d'audience, je me permets de rajouter une petite brique d'information. C'est très lié aussi à ce que nous, on essaie de vachement pousser avec CEOs et auprès de nos clients e-commerce, qui est l'enjeu de bien séparer ces budgets. Alors notamment, nous, on travaille beaucoup sur Google Ads, mais de bien séparer ces budgets entre ces audiences de remarketing, ces audiences de clients existants, ces audiences ou ces campagnes d'acquisition, et de bien s'assurer que ta campagne d'acquisition, elle ne va pas aller faire trop de remarketing, que ta campagne de remarketing, en fait, elle ne cible pas des clients existants, etc.
Exactement.
Parce que tu vas vite aller gaspiller, d'une certaine façon, une partie de ton budget sur des audiences qui ne vont pas forcément avoir une incrémentalité business, donc ça veut dire un business supplémentaire à aller chercher. Et je trouve que cet aspect audience, il est particulièrement important et particulièrement challengeant pour la majorité des boîtes, parce que effectivement, sans les cookies tiers, en fait, Google sait plus qui t'es, et si tu dois envoyer un CSV dans tes listes Google toutes les 3 semaines, la vérité c'est que personne ne le fait. Donc avec les connecteurs, tu es en direct, en fait.
Exactement. Et en fait, j'aime bien en fait quand tu décris la chose, c'est-à-dire une des premières stratégies, c'est de séparer les campagnes entre remarketing et acquisition de nouveaux clients. Sauf que Google, s'il ne sait pas qui sont tes clients existants ou tes clients récents, il va continuer à distribuer la publicité. Et du moment où ton client existant est parti sur ton site, il va le retargeter direct pour dire il a de l'intérêt. Donc pour l'éviter, il faut avoir une liste à jour sur Facebook, sur Google, à exclure de toutes les campagnes d'acquisition pour dire ça, c'est mes clients. Ils sont déjà entrés en interaction avec moi. Et si tu as envie tu as une autre campagne de remarketing, par exemple, pour faire racheter tes clients, pour augmenter la lifetime value, à ce moment-là, tu utilises une certaine liste des clients qui sont entre guillemets à risque de churn, en définissant une règle de type, ils n'ont pas acheté depuis un an, par exemple, et mon cycle d'achat, c'est tous les 6 mois, donc j'ai envie de les réactiver. Et donc, à ce moment-là, tu as besoin aussi d'avoir cette liste-là à jour et d'exclure ceux qui ont racheté, etc. Donc, voilà. Donc, là, on se rend compte, en fait, que c'est même important. Donc, soit on va un peu faire à l'aveugle. Alors, j'utilise des données de Facebook, de Google. Je dis, une publicité, une créa un peu générique pour tous les clients, et j'espère vraiment qu'ils vont cliquer. Sauf que ça ne marche pas comme ça, et on est en train de perdre jusqu'à 20-30% des coûts d'acquisition parce qu'on n'a pas su personnaliser ces campagnes en exploitant de la donnée client. Mais après, on revient à l'enjeu, comment faire communiquer cette donnée-là régulièrement et les garder à jour avec ces plateformes d'acquisition, d'où l'enjeu de la CDP ou un clavio ou autre, en tout cas, qui permet de synchroniser cette donnée avec ces plateformes.
Ok, ouais, mais c'est hyper important. Et je sais pas si j'ai fait un autre épisode avec Jérémy Lacoste qui travaille pour MeilleurTaux, où on a parlé un peu de stratégie Google Ads et du coup de l'importance des audiences aujourd'hui. Ouais. Je sais pas si l'épisode sortira avant ou après celui-ci. Dans tous les cas, s'il est déjà sorti, je vous invite aussi à aller l'écouter. Vous allez comprendre encore plus ce dont on vient de parler avec Oussama sur la partie audience et à quel point c'est un enjeu majeur dans l'acquisition. Est-ce que au-delà de l'activation liée à l'acquisition aux plateformes Facebook et Google, tu as d'autres cas d'usage qui seraient intéressants à partager et d'autres exemples d'activation pertinentes?
Oui, complètement. Après, c'est des cas d'usage qui vont dépendre en fait de la nature du business de l'entreprise. Typiquement, si on revient à l'enjeu de la réactivation, il n'y a pas que de la réactivation avec des campagnes de publicité en ligne. Hein. En général, oui, ça marche, mais ce n'est pas le canal premier pour réactiver des clients. Du moment où on a leur adresse mail, on peut les réactiver avec de l'emailing. Sauf que on revient sur les setups d'entreprise en fait, un peu complexes. Pour avoir l'information sur les clients qui sont, par exemple, à risque de churn, avec une définition du churn qui est « il n'a pas acheté du tout depuis une certaine période ». Et donc, pour avoir cette information dans le CRM, le parcours d'achat il est complexe, physique, en ligne, etc., l'information elle est dans la CDP. Donc, il faut la communiquer au CRM régulièrement parce qu'il y a des campagnes qui se lancent tous les jours. Donc, pour pouvoir le faire, avoir une CDP qui permet d'envoyer cette information des clients, une liste par exemple des clients qui sont à risque de churn qui est mise à jour régulièrement. On peut aussi avoir des entreprises avec une équipe data et avec des data scientists qui vont travailler sur des enjeux de next best offer, donc la prochaine meilleure offre pour un client pour améliorer les taux de transfo de leur campagne emailing et cette information-là, en fait, les data scientists, ils ne la font pas dans un CRM, hein, ils la font dans la CDP. Par la suite, pour qu'elle soit exploitable, il faut la communiquer aux différents outils, notamment les outils CRM, pour qu'elle soit utilisée, pour créer des segments et d'avoir de la communication personnalisée avec sa clientèle et ainsi améliorer les taux de transfo et donc améliorer la lifetime value des clients.
Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi avoir des activations liées au support client? Je pense notamment à des gens qui auraient eu leur commande en retard, mais on sait que c'est un très bon client. Oui. Déclencher derrière une tâche au support client pour rappeler ce client et lui présenter nos excuses, peut-être lui envoyer un code promo spécifique. Est-ce que c'est des choses aussi que tu...
Exactement. En fait, ça me fait rappeler que parmi les critères où tu vois que l'importance d'avoir une CDP, c'est d'avoir un support client. Parce qu'avoir un support client, il y a une autre touche qui se rajoute. Et en général, les outils de support client type Intercom, en fait, ils n'ont pas toutes les informations sur les clients. Est-ce qu'il a envoyé un email? Peut-être qu'il l'a envoyé ailleurs. Peut-être qu'il a appelé ailleurs. Est-ce que sa commande, en fait, elle était retournée? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et cette information, en général, elle vit dans la CDP. Il y a d'autres informations qui sont importantes aussi pour le support client, c'est tout ce qu'il a fait par le passé. C'est pas uniquement par rapport à l'incident, mais aussi est-ce que c'est un client qui est VIP, donc mon traitement il doit être totalement différent. Là, je vais pas envoyer un mail et le faire attendre 3 jours. Non, je dois l'appeler directement parce que sinon je risque de perdre un client fidèle et qui me rapporte beaucoup. Et ces informations-là, en général, sont dans la CDP. Parce qu'on ne va pas, sinon, mettre tout ce qu'on met dans une CDP, dans Intercom, dans l'outil CRM. Et donc, c'est un enjeu fort de personnalisation, d'activation. Mais ça concerne les entreprises où le support client est assez important. Ça, c'est clairement un enjeu. Si je prends mon ancienne entreprise Ornicar, on avait beaucoup de support clients et le support client est assez important pour garder les clients. C'est un enjeu business parce qu'un client qui peut avoir une mauvaise expérience et tu ne réagis pas bien et où tu n'as pas toutes les informations, en fait, c'est, c'est difficile de le retenir. Et si tu ne le retiens pas, bah, tu perds une bonne partie de la lifetime value qu'il aurait pu te générer. Tu prends un Deliveroo. Oui, bah, enfin, y a énormément de problèmes qui arrivent tous les jours. OK, bon, y a des clients, on le sait tous, ils n'ont pas accès au support par téléphone. D'autres qui n'ont pas accès, enfin, qui peuvent y avoir accès. Et ça, c'est des informations de personnalisation, de l'expérience, qui sont basées sur des données envoyées par des CDP.
Ok, extrêmement intéressant. Écoute, je trouve qu'on a, on a abordé vachement de sujets. Ce que je te propose, c'est qu'on arrive sur la fin de l'épisode. J'ai toujours un peu trois questions que je pose à mes invités. La première question, c'est une question sur est-ce que tu aurais à nous partager peut-être une anecdote ou un cas client que tu aurais eu suite à l'installation de Dynmo chez eux qui leur a permis, bah, je sais pas, d'améliorer leur performance, un truc que tu n'avais peut-être pas vu, un truc qui t'a un peu, tu vois, je dirais, éveillé, tu vois, est-ce que tu aurais quelque chose sur ça, une anecdote à nous partager? C'est hyper vague, je te prends un peu au dernier
moment. Non, peut-être pas par rapport à Dynmo, mais en fait c'est une anecdote dans le passé, je ne vais pas ni citer le client, ni citer l'entreprise, mais par rapport à ce que tu disais au début, il y a pas mal d'entreprises en fait, qui lancent des projets sur du marketing. Donc, ils lancent des projets de CDP sur du marketing, donc ils centralisent toutes les données, collectent toutes les données, on a une vision 360 de nos clients, et en fait, au final, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, c'est une entreprise qui a investi beaucoup dans la centralisation de leurs données, dans la constitution d'une vision 360 de leurs clients. Et il y a énormément de marketing autour, en fait, qui tourne. Regardez, on a un projet de transformation majeur dans l'entreprise. Et au final, en fait, quand on avait regardé, ben, en fait, ils avaient juste quelques dashboards sur un tableau que personne n'utilise, en fait, qui était là. Et je me rappelle, il y avait un alternant, un pauvre alternant, en fait, qui venait demander d'ajouter un tableau sur l'outil de dashboarding qui était Tableau. En fait, c'était bizarre parce qu'un outil de dashboarding, en fait, tu mets pas des tableaux, tu mets des graphes, tu mets des analyses. Je dis, du coup, pourquoi avoir ce tableau-là en particulier? Je sais pas pourquoi. Du coup, il commençait à m'expliquer. Ben, en fait, j'en ai besoin pour télécharger cette liste-là en CSV, ensuite aller sur Google Sheet faire quelques transformations, et ensuite ce fichier Sheet, je le transforme en 5 autres fichiers que je vais uploader sur Google Ads, Facebook Ads. Donc une manipulation qui lui prenait quasiment 2 journées de taf manuellement, alors qu'en fait ils avaient centralisé toutes les données. Et en fait là, ça rejoint l'idée, il y a plein d'entreprises qui centralisent les données et derrière ils ne savent pas quoi en faire. Donc là, alors que bah oui, bah, un des premiers enjeux, c'est de simplifier la vie de ce pauvre monsieur qui fait du travail qui est assez répétitif, qui n'a pas réellement de valeur ajoutée. Et c'était une des raisons qui nous a poussé à créer Dynmo, c'est-à-dire bah, okay, bon, pour toutes les entreprises qui ont déjà fait l'effort de centraliser la donnée, bah, comment les aider à avoir les fonctionnalités d'une CDP, c'est-à-dire bah, la capacité à segmenter et ensuite communiquer cette donnée dans des plateformes externes. Et donc c'est ce qui fait notre différence par rapport à d'autres CDP qui sont packagés, qui ont toutes les fonctionnalités. Nous, c'est la donnée, c'est la propriété du client, donc elle reste chez lui. Et nous, on lui permet d'avoir les fonctionnalités qui sont la segmentation et l'activation.
Voilà. Ok, très clair. On a reperdu la lumière, mais à la limite, c'est peut-être pas très grave. On va essayer on va la rallumer au moins pour la fin. En gros, c'est assez marrant comme anecdote parce que du coup, c'est assez représentatif de boîtes qui ont parfois des outils mais qui les utilisent pas. Donc ils les ont mis en place parce que, je sais pas, il y a un gars, il s'est dit c'est mon projet. Ouais. Et en fait, ils ont investi parfois des centaines de milliers d'euros dans un truc où en fait, ils l'utilisent pas. Et c'était assez marrant. Et je pense que c'est souvent le cas, surtout dans les grands groupes.
Ouais.
La deuxième question que j'ai pour toi, c'est est-ce que il y aurait toi des outils que tu recommanderais à des sites e-commerce pour gérer leur data ou d'autres sujets d'ailleurs.
Ouais. Alors moi, ce que je recommande à toute entreprise, soit un e-commerçant, quelle que soit la taille, c'est d'avoir la maîtrise sur ces données. Et cette maîtrise-là, ça passe par ne pas garder les outils, les données, vivre dans des outils. Donc on a parlé tout à l'heure de Klaviyo. Oui, c'est vrai qu'on peut, jusqu'à un certain stade, garder toutes ces données dans Klaviyo, et parce que mon usage, c'est juste de l'emailing, de l'acquisition, donc ça me permet de répondre à ça. Mais aujourd'hui, il y a des technologies, ce qu'on appelle les Data Warehouse Cloud, donc c'est des entrepôts de données qui sont sur le cloud, qui permettent en fait de centraliser les données. Donc, acquérir un data warehouse, c'est devenu vraiment pas compliqué et pas cher, mais vraiment à la portée de tout le monde. Où en gros, pour la majeure des entreprises, ça coûterait une stack complète, elle coûterait quelques centaines d'euros. Et une fois qu'on a répondu à l'enjeu de centralisation de données et que les données, c'est notre propriété, ben en fait, les clients, ils peuvent en faire de l'analytics, suivre leur business. Donc, avant de commencer par l'activation, on va déjà maîtriser vos propres métriques. Maîtriser ce que c'est une lifetime value. Combien de clients vous êtes en train de perdre? Comment ça évolue votre business? C'est quoi le produit qui vous rapporte le plus d'argent? C'est quoi le produit qui vous rapporte des clients qui sont fidèles? Donc, essayez d'aller en fait, étape par étape. Donc, centralisez vos données. Construisez une vision 360 de vos clients, comprenez ce qui drive vos métriques les plus importantes et mesurez-les, et ensuite passez aux enjeux d'activation.
C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de redevenir un peu propriétaire de sa donnée. J'ai un peu la sensation que quand tu utilises des plateformes comme Shopify ou autres, bah en fait, ta donnée, elle vit sur des serveurs de d'autres personnes qui ne sont pas les tiens. Demain, Shopify fait faillite, bah, finalement, ton business, il fait faillite avec. Tu vois.
Exactement.
Je pense, tu vois, moi, ma newsletter, elle est... Toutes les adresses email, on a souvent tendance à dire que les newsletters, c'est un bon moyen d'avoir un contact direct avec les gens sans avoir à faire de la pub. Oui, mais en fait, ces adresses email, elles vivent sur la plateforme de newsletter. Si demain, cette plateforme de newsletter, elle fait faillite, bah, en fait, j'ai potentiellement perdu ses adresses email et je ne pourrais plus vous envoyer, chers auditeurs, des super emails toutes les semaines. Et en fait, c'est un vrai enjeu, je pense, cet aspect de contrôler sa donnée et de reprendre un peu l'ownership de sa donnée. Quoi. Hyper intéressant. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'il y a des médias, des ressources que tu recommanderais à lire pour des e-commerçants, que ce soit sur la data, mais peut-être sur des sujets un peu plus larges?
Question, figure-toi, c'est très difficile parce qu'en fait, comme la data, c'est une problématique universelle. N'importe quelle entreprise, elle a besoin de maîtriser ses données. Donc, il y a plein de providers et le truc, c'est qu'il y a énormément de contenus qui ne sont pas qualifiés. C'est des contenus commerciaux, ce n'est pas du contenu d'experts. J'ai envie de dire, allez sur le blog de Dinmo. Mais sinon... des contenus vulgarisés, très honnêtement, j'ai pas en tête. Nous, on en fait beaucoup. On en fait des playbooks vraiment très vulgarisés, même qui sortent du besoin de Dino. Sinon, les d'autres ressources, moi, je les trouve pas mal sur Medium, mais c'est plus des ressources très experts. Voilà.
Ok, mais écoute, si tu as des nouvelles choses qui te viennent en tête, on les rajoutera de toute façon dans le récap que je fais de chacun des épisodes. Je vous rappelle chers auditeurs, que sur icoberson.com, vous retrouverez le récap de l'épisode justement avec Oussama, avec tous les points clés, etc. Écoute, peut-être juste avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut prendre contact avec toi?
Écoutez, je suis disponible sur LinkedIn, hein, comme tout le monde. Donc, Oussama Ganmi, et sinon, c'est oussama@dinmo.com, dinmo, dinmo.com. Vous pouvez me contacter, je serai ravi de répondre à vos questions ou d'échanger autour de CDP ou n'importe quel sujet de valorisation, d'optimisation des métriques business avec la donnée.
Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Sama, pour ton temps, d'avoir répondu à toutes mes questions sur les CDP. Maintenant, je comprends un peu mieux concrètement comment on peut l'utiliser. Et puis, j'espère que nos auditeurs aussi. Je te souhaite une excellente journée. Salut.
Merci.
Ciao. Salut.